Morning Edition from NPR News.
That's the heat sun in the house.
France Inter, le 18-20 spécial Bayeux pour le prix des correspondants de guerre.
Certains correspondants de guerre préfèrent parler de correspondants de paix. Vous verrez que c'est ce que dit notre premier invité ce soir. Il s'appelle Manoucher Degati. C'est le président du jury cette année de ce 28e prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. C'est un très grand photographe franco-iranien qui aujourd'hui cultive son jardin. Il est avec nous dans un tout petit instant. Il commentera certaines de ses photos avec nous. Dans cette première heure, vous verrez aussi comment sont extraits les métaux rares nécessaires à la fabrication de votre téléphone grâce à un reportage en réalité augmentée. En République démocratique du Congo notamment, il y a une appli à télécharger pour suivre en même temps que nous. Je vous raconterai tout ça dans un instant. Et puis pas de prix Bayeux sans reportage, bien sûr. Avant 19h, nous irons en Irak où se tiennent des élections dimanche. C'est parti, allons-y.
Fabienne Sintès. Le 18-20.
Bonsoir Manoucher Degati.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous et d'entamer ces deux heures consacrées au prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. On est heureux dans le 18-20 de s'y associer, comme chaque année, de s'associer à ce prix qui récompense donc les hommes et les femmes qui couvrent des conflits, qui viennent à nous donc grâce à eux, mais permet surtout de donner voix, à voir et à entendre aussi ceux qui sont à l'intérieur de ces conflits-là. Manoucher Degati, vous êtes photographe, je ne vais pas vous gêner parce que vous êtes un homme modeste, mais vous êtes un très grand photographe de presse, l'un des plus grands. Vous êtes franco-iranien, votre nationalité, votre pays, l'Iran, c'est aussi ce qui a forgé et forcé aussi, on en parlera, votre destin de photojournaliste.
Iran, 1980, Téhéran. Dans cette photo, on voit le chaos. Il y a des opposants qui vont être massacrés. Et vous pouvez imaginer comment c'était difficile d'être là pour faire des photos. C'était un jour de plus violent que j'ai vu dans les rues de Téhéran. Il y a eu apparemment centaines et centaines d'opposants qui étaient massacrés dans la rue. Je suis monté sur le toit d'un immeuble pour avoir une vue sur ce qui passait dans la rue. Et après avoir fait ces photos, mais un des restaurants, il m'a repéré et il m'a arrêté. Et comme j'avais un carnet de journaliste, je peux sortir de cette prison et je courus comme j'avais jamais couru dans ma vie. Comme ça, je me suis sauvé la vie.
Manoucher Degati, je vous vois sourire. J'ai choisi cette photo, cet extrait tiré d'un magnifique documentaire d'Arte où vous commentez des photos avec votre frère Reza. Je conseille à tout le monde d'ailleurs d'aller le voir parce qu'il est visible sur arte.fr. Il dit à la fois ce qu'a été la grande histoire de votre vie, il parle aussi du danger. Il n'y a pas de vanité dans un prix comme le prix Bayeux que vous présidez cette année, mais il y a qu'on a été le bon messager au bon moment, au bon endroit. C'est aussi ça que dit cette photo. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous le voyez ?
Ma vie, enfin, le rôle de photojournaliste, c'est ça, hein, c'est de révéler la vérité, de faire montrer au monde ce que les régimes, surtout dictatorial et fondamentaliste, ils veulent pas voir. Donc, on a, je peux dire, un travail assez dur parce que on confronte tous les dangers. Par exemple, dans les zones de conflit, on a maintenant pas seulement le danger des conflits et les balles, mais aussi les autorités. Pour moi, en Iran, par exemple, l'autorité, c'est le danger plus grand que la guerre et la manifestation. Donc, cette occasion de à Bayeux, je dis de correspondant de guerre, c'est un événement assez unique pour nous correspondants de guerre. Alors, d'ailleurs, je crois que nous on ne doit pas appeler correspondants de guerre.
Votre frère dit correspondant de paix. Vous dites même chose, ouais.
Je dis la même chose parce que vraiment notre but c'est pas de faire propagande pour la guerre, c'est contraire. On veut montrer l'atrocité des guerres et des conflits avec un espoir de pouvoir changer la situation en faveur des gens.
Et pourtant, vous dites que vous êtes entré dans ce métier autant que dans cette révolution Par hasard, c'est pas vraiment le mot. En tout cas, avec un appareil photo et deux pellicules. C'était pas votre destin, Manouchehr Degati. Vous étiez en train d'étudier le cinéma à Rome. Votre destin, c'était pas de courir les guerres.
C'était surtout l'événement dans mon pays, Iran. La révolution. Moi, j'étais jeune étudiant à Rome. Je voulais faire cinéaste. Mais quand les manifestations, ils ont commencé en Iran, je suis entré en Iran. Avec l'espoir de pouvoir changer le régime, avoir une société plus démocratique.
Parce que c'est comme ça que ça commence, hein, la révolution iranienne.
Et voilà, la révolution toujours commence comme ça, mais ils finissent normalement mal. On voit ça.
Et à quel moment vous le sentez, d'ailleurs, vous, en prenant des photos, que toute cette narrative qui parle de libération d'un peuple, à quel moment vous sentez que la narrative est bien, bien différente, la réalité est très différente?
Par exemple, en Iran, c'était, vous voyez, le Khomeini qui a pris la tête de la révolution, qu'on connaissait même pas avant, c'était quelqu'un de méconnu pour nous. Alors, quand il était à Paris, à Neuf-le-Château, il parlait de démocratie, de liberté pour les femmes, que quand il va entrer en Iran, il va pas mêler dans le politique. Mais le jour même où il est entré, il a dit tout le contraire. Voilà, et c'est comme ça qu'il commence. C'est là que je suis que ça va finir mal, cette révolution.
C'est fou parce que je vous entends parler, j'ai l'impression que vous pourriez dire la même chose de la Syrie que vous avez aussi couverte, qui vous a valu d'ailleurs le prix Pulitzer, de l'Afghanistan aujourd'hui.
L'Égypte, pour exemple.
L'Égypte aussi.
J'étais...
Quand on a un vieux photographe comme vous, on a l'impression que l'histoire se répète,
Manouchehr Degati. C'est vrai. Mais je perds pas l'espoir quand même. Hein. En voyant ça, je dis, il faut continuer. C'est surtout nous, journalistes, on doit vraiment continuer notre malgré les difficultés qu'on a encore plus. Je crois que la situation des journalistes, c'est beaucoup pire maintenant qu'avant, quand je commençais des années 70. Mmh, donc ça devient pire parce qu'on est plus ciblé pour les autorités, pour Daesh, pour Taliban, tout ça, voilà.
Il y a une photo qui est ma photo préférée, c'est celle qui fait la une d'un livre que vous avez, la couverture d'un livre que vous avez écrit avec votre frère qui s'appelle Rêves et dérives chez Webeck et qui parle des 40 ans de la Révolution. Ça a été publié en 2019. Et cette photo, on va la mettre sur le site, c'est celle de une où on voit des femmes qui sont toutes en noir, on voit leur visage, mais on ne sait pas exactement ce qui va leur arriver et où elles sont. Sauf quand on lit la légende et qu'on vous écoute.
Iran, 1983, prison de Levin, Téhéran. Je me souviens très bien de ce jour quand j'entrais dans cette prison de Levin, une des prisons plus redoutables du monde, on peut dire. Et dans ces photos, on voit le visage de ces jeunes filles tristes. Peut-être c'est une belle photo en composition, mais je suis aussi content que ça donne ce message de tristesse, parce que la majorité d'entre eux étaient exécutés. Dans la loi islamique, on ne peut pas exécuter des femmes vierges. Il faut le violer avant d'exécuter. C'est le côté des lois islamiques qui est horrible.
Entendre ça et savoir ça, ça change tout de la manière de regarder votre photo, Manouchehr Degati. Moi, je me demande si on couvre différemment un conflit lorsqu'il vous touche, puisque c'est votre pays, quand il devient difficile de s'affranchir d'une énorme part émotionnelle.
Ma vie, c'est... Vous voyez, quand je couvrais la révolution iranienne, et je dis, à part le danger que j'avais d'événements et d'autorités, en même temps, j'ai perdu beaucoup des amis. Beaucoup des cousins qui étaient exécutés, beaucoup des voisins que je connaissais qu'ils ont péri parce à cause de République islamique. Voilà. Là, c'est côté personnel. Donc, mais côté personnel, ça reste pour moi. Et mon travail de photojournaliste, n'importe quoi, je suis en train de photographier. Ça peut être l'Iran, ça peut être El Salvador. Pour moi, la même chose. Mon but, c'est la même chose, de montrer l'atrocité de cet événement.
Parce que là, ce que ça veut dire particulièrement, c'est que ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez été tabassé, vous avez été emprisonné, on vous a enlevé vos appareils photo. Et à la fin, il a fallu partir parce que ça devenait beaucoup trop compliqué. Donc, prendre cette photo... Et les autres, ça veut aussi dire que ça fait 35 ans que vous n'avez pas revu votre pays.
Oui, je suis en exil depuis 35 ans. Et ça, ça m'a donné aussi... Ben c'est pas facile, hein, l'exil, mais ça m'a donné possibilité de choisir ma maison où je veux, dans le monde entier. Donc je suis allé autour du monde. Pendant 35 ans, j'ai vécu dans 12 pays. J'étais correspondant de l'agence France Presse, National Geographic, Associated Press dans le monde entier. Et j'aime bien ça. Je compense cet exil avec pouvoir choisir ma maison où je vis.
Et d'ailleurs, quand vous quittez l'Iran, le premier poste que vous occupez, c'est au Costa Rica. Et on se dit que ce que vous avez cherché à ce moment-là, c'est changer complètement d'image. Baigner dans un autre bain, une autre langue, une autre culture, d'autres odeurs, tout devait être différent.
Tout à fait. Parce que j'avais... tellement de souvenirs mauvais de cette période d'Iran et Moyen-Orient, parce que je couvrais aussi Liban et Afghanistan en même temps. Donc je voulais aller plus loin possible, moi. Et même pour, je dis, pour un photographe, c'est important de changer l'œil. Enfin, changer le sujet qui est lié. Parce que quand on vit trop dans un endroit, les choses, ça devient normal.
Donc on
le voit plus,
en fait,
on le voit, on dit ah, c'est normal. Mais au contraire, c'est on va dans un autre pays, dans un continent différent, notre œil voit les choses plus frais, donc on voit plus qu'avant. Enfin, voilà.
Alors, vous couvrez des guerres, on a l'impression que vous êtes même rattrapé par les guerres, parce que quand vous vous installez au Caire, on est en janvier 2011, quelques semaines plus tard, les révolutions arabes vont éclater, commençant par la Tunisie et puis l'Égypte.
Mes collègues, ils m'ont toujours accusé de savoir en avance ce qui se passe.
Mais... délit d'initié de conflit, alors, Manouchehr Degassi.
Voilà, pour exemple, j'ai arrivé au Caire... pour prendre la tête de opération photo de Associated Press en Moyen-Orient, 20 pays d'Afghanistan jusqu'à Libye, le 23 janvier 2011. Et le 25 janvier, la révolution égyptienne a démarré.
Donc voilà. C'est bouffe, on est d'accord.
Après, il y a eu Syrie, Libye, Yémen. Pendant 4 ans, j'étais vraiment... Oui, je presque pas dormi pendant 4 ans.
Vous avez aussi été blessé. Vous l'avez été très fortement. D'ailleurs, vous avez passé beaucoup de temps ici, aux Invalides. Vous avez été blessé un peu avant ce que vous racontez. C'était à Ramallah, au milieu des années 90. Qu'est-ce qui fait repartir quand même dans ces moments-là? Quelle est la petite voix qui vient pas dans votre tête et qui dit, la prochaine fois, j'aurai moins de chance?
Pas vraiment, je n'ai jamais pensé comme ça. Parce que si vraiment je voulais arrêter mon travail, c'était en Iran, avec tous les problèmes que j'ai eus. Donc, ce genre de problème, ça me donne encore plus de courage pour continuer ce que je fais.
Iran, 1983, Shalamcheh, Khuzestan. Pendant toutes ces années que je couvrais la guerre, je me demandais pourquoi cette guerre, à qui servent, qui gagne dans cette guerre. C'est toujours une question que je me demande. Par exemple, dans cette scène, quand on voit cette soldat blessé qui est en train de crier « Aidez-moi, je suis blessé !» Quand ces soldats ils partaient sur le front de guerre, ils étaient tous fiers. Ils disaient « On va mourir !» En martyr, on va gagner le paradis. Une fois blessés, ils étaient comme un petit enfant qui pleurait. Après 8 ans de guerre, tant de morts, tant de blessés, tant de chagrin, pour rien. Cette image, c'est ce questionnement sur cette absurdité.
Manouchehr Degassi, j'ai choisi cet extrait, toujours extrait du documentaire d'Arte qui commente vos photos, parce qu'elle part de l'absurdité de la guerre, elle rappelle que les soldats sont de très très jeunes gens qui, comme tout le monde, ont mal et ont peur. Et on se demande en écoutant ça si au fond tous les conflits se ressemblent. Est-ce qu'ils se ressemblent ou est-ce qu'ils sont vraiment tous singuliers?
Ah oui, peut-être ça change seulement la raison, mais au fond c'est la même chose. Au fond c'est la mort, blessure, destruction, et voilà. C'est toutes les guerres dans le monde entier que je photographiais. Le résultat c'est la même chose. C'est les hommes qui souffrent, les enfants qui meurent. Voilà. Il n'y a pas de différence entre un conflit à Salvador ou au Moyen-Orient. Le résultat c'est la même chose.
Manouchehr Degati, vous avez aussi été formateur, vous l'avez été pendant longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il faut parfois calmer les enthousiasmes des jeunes reporters qui ont une image comme ça, beaucoup trop romantisée de ce que peut être ce métier?
Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes gens que je rencontre et ils rêvent d'aller en Syrie, en zone de conflit, mais sans vraiment savoir ce qu'ils vont confronter, parce que c'est très compliqué, enfin, d'entrer dans une zone de guerre et pouvoir travailler aussi, parce qu'il y a vraiment d'expérience compte, mais aussi le contact qu'on a, et quel côté on va aller. Tout ça, par exemple, on sait que en Syrie on ne doit pas aller chez Daesh, on doit se protéger de ça. Donc il y a plein de détails que voilà, cette notion de romantique des photojournalistes, c'est un peu trop exagéré quand même. Hein.
Vous avez aussi formé des Afghans, Manouchehr Degati, et j'imagine que tout ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui, vous l'avez regardé différemment du commun des mortels. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les jeunes journalistes que vous avez formés en Afghanistan?
Moi, après le chute de Taliban en 2001, je parti avec mon frère Reza en Afghanistan et on a trouvé un pays vraiment détruit dans tous les sens. Pas d'école, pas de télé, pas de journaux. Tout était fermé pendant 7 ans quand Taliban était là. Et nous, on a décidé, avec l'expérience qu'on a et les connaissances d'Afghanistan et même être voisin, on parle la même langue, farsi, dari, c'est la même chose. Donc on a dit, on va mettre notre expérience au service des Afghans. Donc on a fondé cette ONG AINA. Et entre cette organisation, moi je fondais l'école de photojournalisme. Et je pris 15 jeunes, 5 femmes, le premier en Afghanistan, et 10 garçons, et qu'ils avaient pas touché un appareil photo, parce qu'ils connaissaient même pas le, ils étaient pas même à l'école. Donc pendant à peu près 3 ans, j'enseignais pas seulement photographie, mais géographie, histoire, langue, computer. Et avec l'enthousiasme qu'ils avaient dans cette, avec l'espoir qu'ils avaient, ils ont devenu des photographes, photojournalistes. Extrêmement, incroyablement très avancé. Et il y a Masoud Hosseini, un de mes élèves, qui a pris le Pulitzer, quelqu'un qui n'était pas... Donc c'était un résultat, c'était magnifique. Et maintenant, malheureusement, avec le retour des talibans, la moitié d'eux, on a pu déjà aider d'échapper. Il y a la moitié qui est encore, ils sont en Afghanistan, cachés, clandestins, et ils attendent une opportunité pour pouvoir échapper. Donc voilà.
Manouchehr Degati, aujourd'hui, vous êtes en Italie, vous cultivez votre jardin, vous avez des vignes. Si on vous dit, tu peux retourner en Iran, alors il ne faudra pas travailler, mais tu peux retourner en Iran, qu'est-ce que vous faites?
Non, je ne tournerai pas parce que pour moi, ça me manque mon pays, c'est sûr, mais si je n'ai pas droit de travailler, je ne retournerai jamais parce que c'est inutile d'aller les visiter comme un touriste. J'ai envie de faire des photos. Et je suis sûr qu'ils ne me laisseront pas faire le régime iranien. On connaît, on sait que les prisons, ils ont plein de journalistes, des activistes. Voilà.
Continuez à cultiver votre jardin. En tout cas, merci beaucoup, Manouchehr Degati. Merci vraiment. On vous souhaite un très joyeux festival. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
France Inter, le 18-20 spécial Bayeux pour le prix des correspondants de guerre.
Et la suite de ce 18-20 spécial, c'est un reportage en Irak. Ça ne nous éloigne pas trop de la région qu'on vient de quitter avec Manoucher Degati en Irak avant les élections de dimanche. Juste après, sortez vos téléphones, téléchargez d'ores et déjà une application qui s'appelle 7 Grams. Le chiffre 7 est Grams en anglais, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment faites-le. Et puis on revient après ce petit détour à travers les visions de José González. À tout de suite. Trying to make sense of a now, trying to make sense of a past, to show us how this chance, imagining the worlds that could be, shaping a mosaic of fate for all sentient beings. Visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events, with no one to praise or blame. Suffering and pain, we are patiently inching away toward unreachable utopias. Visions enslaved by the forces of nature, elevated by mindless replicators, challenged to steer our destiny. Visions, look at the magic of reality, while accepting with all honesty that we can't know for sure what's next. No, we can't know for sure what's next, but that we're in. Bayeux Calvados, Normandie, des correspondants de guerre, émission spéciale ce soir. Avant tout, évidemment, ce sont des reportages, un jour dans le monde aussi, et ça tombe bien. Allons donc en Irak, terrain majeur de conflit ces 20 dernières années, qui tient ses élections ce dimanche, des élections anticipées que l'on doit aux manifestations de l'automne 2019, manifestations et répression aussi, immédiatement derrière. C'est dans un Bagdad débunkerisé que je vous emmène, une capitale même plutôt calme, précaire évidemment, puisque ce sont les influences américaines et iraniennes qui s'affrontent ici. Tout commence, encore une fois, à l'aéroport. Et le reste, c'est Aurélien Colli qui raconte.
Quand on atterrit à Bagdad, il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis l'invasion américaine de 2003. C'est l'arrivée à l'aéroport. En fait, pour empêcher les attentats ou les attaques, personne ne peut venir à la sortie du terminal. Il faut prendre une navette ou un taxi spécial qui vous emmène à l'extérieur d'un immense périmètre de sécurité. Et c'est là seulement qu'on peut retrouver soit des proches, soit des taxis pour aller en ville.
Je m'appelle Ali, je suis chauffeur de taxi à Bagdad. Avant Bagdad, c'était un enfer, une zone de guerre, avec des murs de protection, de défense dans toute la ville, entre les quartiers, entre les rues, des murs, des checkpoints, des barrages de milices, de l'armée irakienne, de la police. Et puis quel que soit l'endroit où tu posais le pied, il y avait un attentat, une explosion. Tu rentres chez toi, peut-être une explosion. Tu envoies tes enfants à l'école, tu les sens pas en sécurité. Maintenant c'est un peu mieux, il n'y a plus les murs de protection, ils ont rouvert les routes et la zone verte.
Alors Bagdad respire un peu, les Bagdadis se sentent un peu moins assiégés et la capitale a presque retrouvé des airs de ville normale. Avec les élections, les ronds-points, les grandes artères, les avenues sont même couverts d'affiches des candidats. Mais les checkpoints n'ont pas du tout complètement disparu en fait. Il y en a un là en l'occurrence avec une file de voitures. Il est tenu par des militaires. En principe, ils n'ont pas le droit de parler à la presse, mais on va quand même essayer.
On travaille essentiellement à partir de renseignements. Si on a des soupçons, on va arrêter le véhicule, on va le fouiller, demander les papiers. Ce qui nous inquiète le plus, c'est le terrorisme. On craint les voitures piégées, les attentats suicides avec des ceintures d'explosifs. Parfois, il y a aussi des affrontements entre tribus, entre clans, et ils passent avec des armes. Dans ces cas, si on les trouve, ils sont arrêtés et sont considérés comme terroristes.
Pour faire le point sur la sécurité de Bagdad et dans le pays pour ce scrutin, en fait, il faut aller dans la zone verte. C'est un quartier qui était entièrement bouclé, inaccessible autrefois. Il a été partiellement rouvert. Il y avait des troupes américaines, elles sont parties. Il y a l'ambassade américaine qui est toujours là. Elle est gardée par des forces spéciales irakiennes parce qu'elle a été attaquée ces derniers mois par des milices soutenues par l'Iran. Et juste en face, il y a le QG des forces armées irakiennes. C'est là que je vais rencontrer le général Tarsin, c'est leur porte-parole.
السلام عليكم يا ابو احنا الراديو الفرنسي
على راسك
تسلم راسك
مطلوب وي ستارتينج تو بلانينج.
On a commencé à préparer il y a plus de 3 mois pour toutes les villes d'Irak. Nos troupes font des opérations quotidiennes contre les terroristes de Daesh, en particulier les cellules dormantes. Aujourd'hui, on est prêt pour ce scrutin. Ces 3 derniers mois, on a placé des troupes en stand-by dont la responsabilité est d'intervenir immédiatement si quelque chose se produit. On a identifié les lieux des bureaux de vote, déployé nos troupes en fonction du nombre de bureaux de vote. Si les Irakiens voient à quel point ils sont protégés, ça doit les encourager à aller voter. Depuis 2003, en termes de sécurité, ce sont les meilleures élections organisées.
Dans tout le pays, il y a à peu près 8300 bureaux de vote qui ont été ouverts, qui sont sécurisés par l'armée irakienne. Et il y a des mesures drastiques aussi qui ont été prises pour que le scrutin se passe le mieux possible. Fermeture des frontières et de l'espace aérien, donc aussi des aéroports, de vendredi soir à lundi matin. Et de samedi soir à lundi matin, fermeture de tous les commerces qui ne sont pas essentiels. Interdiction de se déplacer entre les provinces irakiennes. Interdiction de circuler aussi pour les 2 roues ou les camions de plus de 2 tonnes. Et interdiction des rassemblements. C'est l'armée irakienne aussi qui va gérer le transport des urnes. Et ça, c'est centralisé dans une grande pièce avec des cartes partout sur les murs. Il y a des écrans aussi et des gradés qui s'agitent un peu dans tous les sens.
Je suis le lieutenant général Karim Al-Taimi, numéro 2 du centre opérationnel conjoint. Depuis hier, on a commencé à distribuer les urnes pour la commission électorale dans les bureaux de vote des différentes provinces du pays. On continue aujourd'hui et demain jusqu'à ce que les opérations de transfert soient terminées. Après le processus électoral, après le vote, dimanche 10 octobre, on va retransférer les urnes avec les bulletins, des bureaux de vote, jusqu'à des entrepôts sécurisés par l'armée et la commission électorale.
Pour garantir la transparence du scrutin, en plus de l'armée irakienne et d'une commission électorale, l'ONU et l'Union européenne ont déployé des centaines d'observateurs. La grande inconnue, en fait, c'est la participation. Alors que ces élections ont été anticipées après la révolte populaire de 2019, qui avait été violemment réprimée, des centaines de morts, des milliers de blessés, eh bien, beaucoup d'Irakiens n'y croient plus. Ils sont convaincus que ce sont les mêmes partis politiques qui se partagent déjà le pouvoir depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, qui vont rester en place, des partis communautaires, confessionnels, corrompus, avec leurs milices et leurs influences étrangères. On va terminer ce reportage au siège de la Commission des droits de l'homme avec son président Ali Al-Bayati. Lui redoute pas des violences le jour du vote, mais après.
La plupart des partis politiques sont armés. S'il y a des tensions entre eux, ils vont utiliser leurs armes. Avec les gens, ils vont aussi essayer de les utiliser. Des défenseurs des droits humains ont été tués, des candidats indépendants ont été visés, menacés. Donc s'il n'y a pas de changement rapide de la situation pour répondre aux demandes populaires basiques, je pense qu'il va y avoir à nouveau des manifestations, que ce sera plus agressif, plus important qu'en 2019, et les forces de sécurité actuellement ne sont toujours pas assez matures pour faire face à une telle colère et à des manifestations massives.
Aurélien Colli pour le reportage en Irak. Merci beaucoup.
France Inter, le 18-20 spécial Bayeux pour le prix des correspondants de guerre.
Aujourd'hui, il y a sur Terre plus de 5 milliards de téléphones en circulation. Si on mettait tous ces appareils bout à bout, ils feraient 16 fois le tour de la planète. Pour produire tous nos appareils électroniques, il faut des tonnes de ressources naturelles en métaux et minerais, dont certains sont précieux ou très difficiles à extraire. À quoi servent-ils ces métaux et pourquoi sont-ils indispensables? Sevengram va te montrer ce que tu n'as jamais pu voir de ton smartphone, et ce, au travers de ton smartphone.
Bonsoir Karim Ben Khalifa.
Bonsoir Fabienne.
C'est votre voix qu'on entend, Karim. J'ai conseillé en début d'émission à ceux qui nous écoutent de télécharger l'application qui va avec votre reportage, qui est votre reportage. L'appli s'appelle donc 7 Grams, 7 S-E-V-E-N et Grams comme en anglais. Faites-le vraiment parce que le résultat est bluffant. Karim Ben Khalifa, vous auriez pu faire un reportage dit classique pour raconter l'extraction des métaux rares, notamment en République démocratique du Congo. On va y aller. Tout ce qui sert à fabriquer notre téléphone, comment vous vous êtes dit, il va falloir le faire autrement, si je veux être vraiment entendu?
Oh, je pense différemment. D'habitude, on travaille pour un média, on a une histoire, on a le média, et puis avec ce média, on a une audience. J'ai juste tourné les choses à l'envers, je me suis dit, j'ai cette histoire, qui doit l'entendre, qui doit la voir, qui doit la comprendre, pour avoir un impact, et quel est le médium sur lequel ils sont? Et du coup, si on regarde 7 Grams dans ce sens-là, c'est vraiment une histoire pour une audience particulière, les 16-25 ans, qui consomment le journalisme différemment, et surtout du long-form journalisme. Là, c'est essayer de leur proposer quelque chose de complètement nouveau.
Alors, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Vous nous faites prendre conscience de ce qu'on a entre les mains, et les fameux 7 grammes, ce sont ces tout petits grammes de rien, mais qui pèsent très lourd, l'or, le tungstène, le cobalt, la cassitérite, autant de choses qu'on ne veut pas savoir au sujet de notre téléphone.
Je ne suis pas sûr qu'on ne veut pas savoir
vous
ça.
Vous croyez?
Oui, moi je pense que, en tout cas quand on s'adresse à cette génération des 16-25 ans, c'est des gens qui veulent connaître ce qui se passe dans le monde, mais bon, enfin, il faut chercher dans des études par exemple qui ont été faites par le Reuters Institute en Angleterre, et qui a analysé et qui a regardé l'usage de ces jeunes et comment est-ce qu'ils consomment le journalisme. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont à 75% prêts à expérimenter des nouvelles formes narratives. Il faut les fournir. Ensuite, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ne veulent pas être juste donner une mauvaise nouvelle. Ils voudraient être aussi offerts des solutions par rapport à ce problème. De savoir quoi faire, parce que vous imaginez bien, pour les 16-25 ans, les mauvaises nouvelles, elles s'empilent les unes derrière les autres. Et si on offre à eux clairement des voies de passage, que faire avec cette problématique-là, comment est-ce que moi, personnellement, je peux influer, eh bien, il faut les offrir. C'est ce que je fais dans 7 Grams.
Vas-y, fais un pas vers le téléphone. Tiens le droit et tape deux fois sur l'écran.
Et ce que vous nous expliquez, Karim Ben Khalifa, c'est donc d'où viennent ces métaux. Vous dites par exemple que notre téléphone est blindé d'or, l'or, la cassitérite notamment, qui fait l'objet d'un trafic illégal en RDC, pays d'une richesse incroyable et d'une pauvreté infinie.
Ouais, alors c'est ça le grand paradoxe. C'est un pays là qui a des ressources, qui 24 000 milliards de dollars estimés de ressources sous son sol. Pour vous donner une échelle, le PIB des États-Unis c'est 21 000 milliards. Donc c'est 3 000 milliards de plus. Et ce pays pointe à la 176e position de l'index de développement humain, qui ne tient que 181 positions. Donc c'est vraiment tout en bas, et il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. C'est un pays qui est extrêmement riche, qui est dans le chaos, et j'ai bien peur que ce chaos soit quelque part un tout petit peu entretenu, parce que ces ressources, elles sortent constamment du pays. Mmh. Il y a plus de 130 groupes armés dans l'est du pays. Mais le problème n'est pas que cette violence ou que la contrebande. C'est aussi de savoir qu'un mineur artisanal de tungstène qui décide de faire ce métier-là, enfin qui décide de rejoindre une mine artisanale, il va gagner en moyenne 2 dollars par jour. Et ce n'est pas suffisant pour pouvoir loger sa famille et pour pouvoir entretenir sa famille, mmh. tout simplement. Alors, juste un dernier point là-dessus, non, par exemple. Allez-y. Ils y vont parce que ils gagnent un peu plus d'argent que quand ils sont fermiers. Et un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et du coup, il n'y a plus assez de fermiers. Et du coup, les denrées alimentaires, le prix des denrées alimentaires monte. Mmh. Et du coup, c'est un cercle de la pauvreté. Donc, ce n'est pas qu'un problème de groupe armé. Ce qui est important, c'est de trouver des solutions avec les mineurs sur place, les mineurs artisanaux. Et de voir de quoi ils ont besoin et comment est-ce que nous, on peut changer cette industrie en étant consommateur, parce qu'on a un vrai pouvoir d'achat.
Alors, on va y venir effectivement à ces mineurs artisanaux, mais quand même, vous avez évoqué les groupes armés à l'instant. Il y a un personnage dans votre reportage qui s'appelle Chance. On va l'écouter, tiens, juste un tout petit peu.
On ne se battait pas pour les terres. On devait descendre au cœur de la montagne pour extraire de l'or ou de la cassitérite. 18 heures par jour. On dormait dans l'obscurité de la mine, sans même savoir s'il faisait encore jour ou déjà nuit.
C'est ça aussi, c'est vers ça effectivement qu'il faut tendre, contre tout cela qu'il faut lutter. Ce que vous racontez à travers l'histoire de Chance, c'est que il a été enlevé à sa famille, c'est un enfant soldat. Soit il essaye de gagner du territoire avec les groupes rebelles auxquels il est obligé d'appartenir, soit il est de toute façon au fond de la mine. On est dans cette espèce de cercle vicieux, puisqu'il faut des métaux pour acheter des armes qui seront vendues, et tout ça avec des petits personnages comme lui au milieu.
Eh oui, malheureusement, des innocents, des vies volées. Alors, c'était important pour moi de dire aussi que Chance est le symbole de ce qui ne va pas dans cette industrie. Mmh. Quand tout va mal, il y a des enfants qui payent le prix. Et Chance, il porte bien son nom quelque part parce qu'il a réussi à s'évader. Mais pour un Chance qui s'évade, il y en a combien dont on n'entend jamais le nom, dont on n'entend jamais le témoignage, et qui meurt au fond de mine ou sur des combats avec d'autres groupes armés.
Au passage, Karim Belkhalifa, puisque c'est très très bien fait, l'histoire de Chance qui nous est racontée par une animation noir et blanc, qui c'est le dessinateur? Quel est son nom?
Titi Hernandez, c'est une artiste américaine de la côte ouest. Et c'est une artiste que j'ai rencontrée et puis on a développé, on a réalisé le film ensemble pour essayer vraiment de raconter cette histoire-là. Et elle a évidemment une grande sensibilité pour le dire. Et puis c'est l'opposé du digital qu'on a dans la réalité augmentée. On rappelle, non seulement, je trouve que le fusain rappelle cette texture de minéraux, et puis aussi, surtout, c'est une technique qui nous permet de parler de violence sans devoir la montrer de manière brutale, et pouvoir la suggérer de manière sensible.
Alors, vous le disiez, effectivement, ça c'est le pire qu'on peut trouver en République démocratique du Congo pour faire les extractions, mais les grosses compagnies qui achètent le minerai disent, elles, maintenant, qu'elles font extrêmement attention aux méthodes d'extraction, à ce qui se passe autour. Jusqu'à quel point on les croit sur parole, Karim Belkhalifa?
On ne croit pas des compagnies qui font de l'extraction de ressources, quelles que soient les ressources. C'est des gens qui travaillent pour des actionnaires qui n'ont que très peu de respect pour les droits humains. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort, et je pense que l'industrie au Congo, c'est une situation qui est un peu meilleure que celle des mineurs artisanaux. Et moi, mon travail se concentre vraiment sur ce problématique des mineurs artisanaux de l'Est du Congo. Et il ne faut surtout pas les boycotter en même temps, parce qu'ils ont vraiment besoin de ça pour vivre. Ils sont assis sur des richesses. Il faut simplement payer le juste prix, le prix éthique et le prix moral, comme on peut le faire pour du café, comme on peut le faire pour du coton. Il faut penser à ces électroniques exactement de la même manière. Mais surtout aussi, il faut recycler nos électroniques. Il n'y a que 20% de recyclage. C'est 53 000 millions de tonnes par an de déchets électroniques qui polluent. Donc c'est un problème écologique, mais qui aussi, dont on ne récupère pas les ressources. Donc on n'est toujours pas dans une économie circulaire. Et ça, c'est une vraie chance, c'est d'essayer de bouger de ce côté-là. Ça veut dire que les utilisateurs, non seulement doivent demander aux fabricants de leur téléphone d'être éthiques, et que c'est important pour eux d'avoir un téléphone qui soit libre, ou on va dire libre d'injustice, mais aussi éthique.
Et comment je peux savoir, moi, que celui que j'ai entre les mains, alors probablement pas celui d'une grande marque que vous citez d'ailleurs dans votre reportage, hélas, mais comment je peux savoir, moi, que celui que j'ai entre les mains a pu être réalisé dans des bonnes conditions, justement, et qu'on a fait travailler et qu'on a payé au juste prix les mineurs artisanaux?
Eh bien, il faut légiférer. L'Allemagne, par exemple, a sorti en juin cette année une loi qui rend toutes les entreprises responsables de leur chaîne d'approvisionnement. Mais quel que soit, hein, je ne parle pas juste des électroniques. Et ils sont responsables des abus de droits humains. S'il y a des abus, s'il y a des violations, ils en sont responsables. Ça, c'est légiférer. L'Europe est occupée à essayer d'avoir un niveau de réparabilité de nos électroniques qui n'est absolument pas là aujourd'hui. C'est quelque chose que nous, en tant que consommateurs, on peut demander aussi, on peut soutenir. Je crois qu'on a beaucoup de leviers d'action. Ce qui est sûr, c'est qu'on touche notre téléphone en moyenne 2600 fois par jour. Il n'y a pas un outil qui soit plus proche de nous aujourd'hui. Et c'est vraiment destiné pour les 16-25 ans, une nouvelle forme narrative.
Est-ce que vous, ce que vous rappelez aussi, et ce que vous leur dites à ces 16-25 ans, c'est que en se battant, parfois ça marche. Vous parlez de ces fameuses familles congolaises qui ont attaqué les Apple, etc. en 2019. Ça veut dire qu'on peut leur tordre le bras, qu'on peut leur demander des comptes?
Je crois que les meilleurs comptes, quand on parle à du corporate et à des entreprises, c'est de les prendre par l'argent. Voilà, tout simplement, on a un pouvoir d'achat, on a le choix, on peut décider d'acheter un téléphone qui est reconditionné au lieu qu'il soit neuf, et ça aide. On peut recycler, on peut réparer, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Faut-il encore le savoir? Et c'est exactement ça que je propose de faire.
Est-ce que vous l'avez déjà montré, justement, testé auprès de ces fameux 16-25 ans, votre application, Karim? Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce que vous vous dites que, ouais, on l'a trouvé le biais pour leur parler à eux, peut-être, nous les plus vieux, si je puis dire, avec nos médias traditionnels, comme on dit en y mettant plein de guillemets?
Moi, je pense qu'il faut expérimenter. Il faut justement essayer de voir comment ces gens et qu'est-ce qui leur plaît. Alors, je l'ai fait, bien sûr. On a eu une grande avant-première à Halle, en Allemagne, il y a une dizaine de jours. Et aujourd'hui, j'ai passé la journée avec des étudiants qui sont passés dans l'exposition. Il y a un vrai retour. C'est un langage. Ils sont natifs, tout simplement. Ils sont nés avec ces outils. Ils ne se souviennent pas de quand l'internet était lent, tout simplement.
Ouais. Bah, peut-être qu'ils n'ont même pas connu sans internet du tout.
Exactement. C'est exactement ça. Donc, ils rentrent dans cette de manière très simple, très intuitive. Ils s'y reconnaissent, même s'ils ne connaissent pas ça.
Ça s'appelle 7 Grams. Donc 7, S-E-V-E-N Grams, allez voir sur votre téléphone portable, reportage en réalité augmentée, présenté cette semaine à Bayeux. Karim Ben Khalifa, je vous remercie beaucoup. Et à une prochaine fois.
Caisse d'épargne. 6 sur 10, c'est la part de Français qui accorde une place importante aux impacts environnementaux et sociétaux de leurs placements. 6 sur 10, pour qui un investissement doit rapporter plus qu'un simple rendement. C'est pourquoi la Caisse d'épargne s'engage à être encore plus utile en proposant des solutions d'investissement responsables en assurance vie et plan épargne-retraite. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Caisse d'épargne intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS, voire conditions en agence. Les collectivités agissent pour la transition énergétique avec Acté. Gilles, président d'une communauté de communes.
La rénovation énergétique des bâtiments publics, c'est réduire nos dépenses, agir pour le climat et l'emploi. Mais par où commencer? Grâce à Acté, nous avons pu bénéficier d'un appui pour définir notre projet, trouver des aides et lancer les travaux pour la piscine intercommunale.
Acté, un programme porté par la FNCCR Territoire d'énergie avec le ministère de la Transition écologique. Info sur programme-cee-accte.fr ou contactez nos experts au numéro vert 0800 724 724.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20 spécial Bayeux. Pour le prix des correspondants de guerre.
Et deuxième heure ensemble autour de ce 28e prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre qui se poursuit jusqu'au 10 octobre et jusqu'à 20h pour ce qui nous concerne. On en prend des petits morceaux dans le 18-20. Dans un instant, vous allez faire connaissance avec de jeunes activistes libanais, vivre avec eux une année entre la révolution du 17 octobre 2019 et l'explosion épouvantable du 4 août. Nous irons en reportage à Raqqa également, qui a tant de peine à se relever après des années de guerre et d'occupation de Daesh. Et puis pour aller jusqu'à 20h avec Adrien Jaulme, nous vous raconterons l'histoire du reportage de guerre qui commence, figurez-vous, à la guerre de Crimée, qui nous emmène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la couverture de la Syrie et d'autres conflits. Soyez les bienvenus si vous arrivez à peine.
Fabien Sintès. Le 18-20.
تولد من رحم الأحزان. السلطة تعرف هالشي وبتخاف منه. ليحموا حالهم عودونا على فقدان الذكرى والمرونة ونسيان أمواتنا وحتى انتفاضتنا. ب17 تشرين أخذت الناس منهم ألم التاريخ بلحظة واحدة.
Elle est là, notre première escale pour entamer cette deuxième heure. La révolution née des entrailles du chagrin. Nous sommes au Liban, un film, un documentaire signé Sarah Claus, signé Arthur Saradin, Chardel El Cherif et Maxime Massé. Voilà, je suis contente de vous citer tous les quatre. On a que la moitié de l'équipe avec nous, mais c'est déjà ça. Bonsoir Arthur Saradin.
Bonsoir.
Et bonsoir Chardel El Cherif. Merci beaucoup d'être avec nous. La voix qu'on entend là derrière nous, c'est celle de Ahmad Yassine. C'est votre fil rouge. C'est grâce à lui, entre autres, pas seulement, que vous allez nous emmener sur toute cette année-là. Et ce qu'on voit surtout avec lui et avec d'autres, c'est combien cette année les a changés. Combien plus rien ne sera la même chose. Combien chacun de vos personnages a basculé cette année-là. Arthur
oui,
ou Charbel, comme vous voulez.
Ah bah Charbel, allez-y.
Allez-y.
Oui, oui, effectivement, c'est la voix d'Ahmad, un personnage, un ami maintenant qu'on a rencontré pendant la révolution, 17 octobre 2019, et maintenant il est en France. Il faut regarder le docu pour. Je vais pas trop gâcher.
Non,
mais
non, bah non, gâchez pas. Mais j'allais y venir doucement. Faut nous dire qui il est, en fait, et qui est Verena aussi, par exemple, l'étudiante, pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Qui sont ces deux personnages?
Oui, Ahmad, c'est un professeur, un docteur à l'université libanaise. Il a fait des études de géopolitique. Et Verena, c'est une étudiante, maintenant une avocate, au Liban, qu'on a rencontré tous les deux dans la révolution, et ils sont deux personnages hyper actifs dans ce mouvement qui ont commencé les jeunes au Liban en 2019.
Hyper actif et hyper attachant aussi. Et on sent jusqu'à quel point, peut-être qu'aujourd'hui, on l'a presque oublié parce qu'il s'est passé tellement de choses. On sent que ça commence dans une vraie joie, dans une ville qui est prise par les jeunes. Ahmad dit lui-même qu'il décrit Beyrouth comme un club à ciel ouvert. À ce moment-là, quand ils croient encore tous qu'une victoire est possible et que cette révolution va aboutir à quelque chose. Arthur Saradin.
Oui, bah c'était un moment d'extrême joie en fait, la révolution qui a eu au Liban, c'était un moment d'ivresse révolutionnaire. Et ce qui s'est passé par la suite, c'était justement un chagrin qui est venu avec les pénuries, avec l'aggravation de la crise, avec la répression de la révolution, avec l'explosion du 4 août 2020. Et en fait, cette révolution qui au début était joyeuse, était une aspiration de la démocratie, qui était un réveil qui portait aussi une colère contre la classe politique dirigeante, c'était surtout une révolution qui était née d'un ras-le-bol, mais qui a été portée par l'espoir et la joie. Et l'année passant, on la voit se dégrader. Et encore aujourd'hui, au Liban, si la révolution s'essouffle, c'est parce que, comme tout le reste au Liban, l'espoir est devenu une ressource en pénurie.
On la voit se dégrader, on voit, il y a des conversations, on voit qu'ils savent plus par quelle boule apprendre en fait. Qu'est-ce qui pourrait remettre les gens dans la rue? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de retrouver le premier souffle de la révolution? Et c'est vrai que ça fait presque de la peine en fait, aujourd'hui avec le recul, de les voir avancer dans cette année-là.
Oui, bien sûr. En fait, la grande question que se posent les révolutionnaires maintenant, c'est comment admettre que la révolution dans les rues ne permettra pas d'achever la révolution politique et de faire tomber le pouvoir, mais comment on pourrait utiliser cette véritable révolution culturelle qu'il y a eu, qui a fait tomber tous les tabous sur l'anticonfessionnalisme, sur la laïcité, sur toutes ces idées anti-régime qui avant étaient totalement résiduelles au Liban et qui ont fini à être portées par presque la majorité des gens dans les rues en réalité, et comment la transformer d'une autre manière, comment se révolter autrement dans les médias, dans la politique, comment utiliser les élections. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, alors que la crise s'aggrave.
Et qui est déjà formulé à ce moment-là, il y a ce personnage il y a cette scène dans une voiture, on est juste avant l'explosion du 4 août, et qui dit même les révolutions qui ont échoué aboutissent à des changements. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est une manière de se persuader que tout n'est pas mort, ou c'est déjà le virage qui dit il faut qu'on arrive à lutter différemment, parce que là c'est bon, on est à bout de souffle?
100%, je pense que tous les personnages et toute la jeunesse qui est descendue à cette révolution, même les autres générations, peut-être à ce moment-là, ils croient que c'est épuisé, la révolution s'est épuisée, mais Ahmad, Verena et les autres, ils croient que c'est juste le début. Un mouvement comme ça tout aboutit toujours à un changement. Mmh. Et on attend justement ça, parce que là, on est dans un trou hyper profond, comme vous le savez. Mmh. Le Liban, il est encore pire que 2020, mmh. pire que 2019. Mmh. Donc ça donne un peu de l'espoir, parce que on voit beaucoup des mouvements des indépendants, beaucoup d'activistes qui sont en train de forcer, de donner la voix aux mmh. jeunes, donner la voix plus aux indépendants les plus comment dire, les
réformateurs.
Voilà, 100%.
Et c'est vrai que quand on regarde vos personnages, alors c'est vrai que je m'en veux de dévoiler un petit peu, mais c'est vrai qu'Ahmad est rentré. Ahmad est rentré. Il est en France parce qu'il a reçu des menaces, parce qu'il est menacé. Mais cette situation-là et ces menaces-là disent combien les systèmes confessionnels sont encore extrêmement forts. Et c'est pour ça qu'il est obligé de rentrer en France et de s'y réfugier, Ahmad.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, Ahmad ne fait pas face à un État qui le réprime. Ahmad fait face à un cartel qui est mené
Ahmad
par
des chiites.
Ahmad est chiite, bien sûr. Oui. Mais au-delà même des propres cartels, de sa confession, qui en effet le menace et l'ont amené à être un exilé, Ahmad il se bat contre un système qui est en fait une sorte de parodie d'État, qui est le Liban d'aujourd'hui, c'est-à-dire un agglomérat de confessions, de partis qui sont des anciennes milices de la guerre civile, qui... Après 1990, on troquait le treillis contre le costume de pièce de politicien et se sont partagés les terres, le pays, pour chacun avoir sa souveraineté d'un bout à l'autre de l'État, et aujourd'hui mettre un système qui réprime tous ceux qui aimeraient unir le Liban dans une idée autre de la nation, qui est une idée autre que celle du confessionnalisme en réalité.
Et on voit bien dans les dialogues qu'il a avec son père que son père est d'accord avec lui, enfin sur le principe, et en même temps on sent bien vers quoi il est attaché, comment il a été élevé, le père d'Ahmad, et comment pour lui de toute façon il n'y a finalement pas d'autre système. On le sent en creux dans le dialogue qu'il a avec son fils.
Mais en fait, on le sent en décalage surtout. C'est ça qui est très intéressant dans cette révolution. Et pour que nous, on l'explique, en tout cas on la raconte comme une révolution culturelle. C'est que cette révolution, c'est aussi la révolution d'un peuple, mais qui s'est créé en tant que peuple et qui a essayé de se définir en tant que peuple pendant qu'il se révoltait. Et qui a donc essayé de penser à un nouveau système qui serait plus démocratique, qui a essayé de se penser, mais qu'est-ce qui nous unit en tant que Libanais, qui ont essayé de faire tomber toutes ces barrières géographiques, communautaires, sociales, qui pendant des années, des décennies les avaient séparés, et se sont retrouvés dans la même rue, portant des causes différentes, mais en s'initiant aux causes des uns et des autres. Et c'est ce qui a fait pour nous une véritable révolution culturelle qui peut être, avec l'histoire, va se concrétiser en révolution politique.
Alors vous, oui, pardon, allez-y.
Non, je voulais juste dire que même les générations se sont mélangées dans les rues parce que ils en ont marre. Ça fait plus de un demi-siècle que le Liban souffre du même problème, le confessionnalisme, la division des cartels, les seigneurs de guerre qui se divisent le Liban comme si c'était leur terrain de jeu, vous voyez. C'est, ils en ont marre.
Charbel et Arthur, Ahmad est en France. Comment peut-il lutter désormais? Qu'est-ce qu'il fait? Verena, elle, qui était partie pour étudier, mais qui est revenue après l'explosion, est finalement restée à Beyrouth. Là aussi, sur quel fil peut-on tirer, puisque vous l'avez rappelé, vous aussi, la situation aujourd'hui est encore pire qu'elle l'était lorsque tout cela a commencé?
C'est une question qui est très compliquée, parce que c'est surtout une question qu'ils sont en train de se poser. Alors Verena, elle va s'investir dans les élections de 2022, qui auront donc lieu dans quelques mois, en essayant un peu d'unir les forces indépendantes et anti-régime au Liban. Ahmad, ne pouvant pas retourner au Liban, lui, il va se concentrer plus sur un cyberactivisme. Oui. Nour, qui est le troisième personnage du documentaire, va lui plus se concentrer sur un activisme dans les rues, quand il sortira de prison, parce qu'il a été re-emprisonné depuis. Et en fait, je pense que ce qui va les unir dans leur lutte, c'est surtout préserver la mémoire du 17 octobre 2019.
Ça s'appelle La révolution née des entrailles du chagrin. Ça vient d'être présenté à Bayeux, et j'espère que vous aurez tous l'occasion de le voir le plus rapidement possible. Arthur Saradin et Charbel El-Cherif, je vous remercie tous les deux, mille fois.
France Inter, le 18-20 spécial Bayeux, pour le prix des correspondants de guerre.
Allons sur un autre terrain, c'est à Raqqa que je vous emmène, d'où les djihadistes de Daesh, vous le savez, ont été chassés. Symboliquement, c'était tellement fort, sauf que 4 ans plus tard, la ville n'arrive pas à se relever, détruite à 80% par les forces de la coalition internationale. Raqqa étouffe toujours, faute de soutien massif de la communauté internationale. Les habitants vivent encore au milieu des décombres, sous la menace de Daesh aussi, qui n'est pas loin. Raqqa, c'est une ville jeune, mais rares sont ceux qui croient à un retour à la normale. Et le reste, c'est Céline Martelet qui raconte. Raqqa est aujourd'hui une ville bruyante, poussiéreuse partout. Des décombres et des ouvriers qui reconstruisent de manière presque artisanale les habitations soufflées par les frappes aériennes de la coalition internationale. Et sur ces chantiers de reconstruction, des enfants, des garçons qui portent sur leur dos ou à bout de bras du métal, du ciment, dans un immeuble du centre-ville. Ahmed en fait travailler 6 toute la journée.
Je suis forgeron, c'est moi le chef de chantier. J'embauche des enfants qui ont 12 ou 13 ans. Et je dois dire qu'ils travaillent bien. Chaque jour, moi je gagne 5 dollars, eux un peu moins. Sur les 4 enfants qui sont là, 2 vont encore à l'école et 2 n'y vont pas. Bien sûr, la place des enfants, c'est d'aller à l'école. L'éducation, c'est le plus important, mais après, certains sont en échec scolaire. Alors au moins, ici, ils apprennent un métier qui leur permet de vivre. Ce sont les parents qui les envoient bosser. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Si les parents sont d'accord, c'est leur problème, pas le mien. La coalition a détruit notre ville et ce sont ses enfants qui la reconstruisent.
Et Ahmed ne semble pas éprouver le moindre sentiment de honte à faire travailler ses enfants. L'homme n'est pas tendre avec eux en rigolant. Il leur jette parfois des cailloux lorsqu'ils ne vont pas assez vite à son goût. L'un de ses petits ouvriers s'appelle Ismaël. Il porte toute la journée du métal. Il dit être âgé de 14 ans, mais il est probablement bien plus jeune. Ses mains sont abîmées, il est maigre, la peau brûlée par le soleil.
Je découpe ces morceaux de métaux et après je dois les monter sur 6 étages, jusqu'ici sur le toit. Ensuite, on doit les assembler entre eux pour construire la structure. Je ne sais pas combien d'allers-retours je fais par jour, 100 peut-être. Je préférerais être à l'école, mais bon, ici, j'apprends un métier. Je suis triste de devoir travailler alors que je sais que les autres enfants ne travaillent pas. Moi, je vais à l'école seulement de 7h à midi. Je ne suis pas le meilleur élève, mais bon, ça va quand même. Ce que je préfère, c'est les sciences. Quand je serai grand, j'aimerais vraiment être médecin pour soigner les gens. J'aime pas travailler sur les chantiers, c'est trop fatigant.
Chaque jour, Ismaël gagne un peu moins d'un euro. Comme lui, de nombreux élèves ont dû délaisser les bancs de l'école à Raqqa pour subvenir aux besoins de leur famille. Des enfants qui avaient déjà été privés d'éducation pendant les 3 années et demie de présence de Daesh dans la ville. Les plus grands, les étudiants, n'ont également plus accès à cette éducation. Il y avait 3 universités autrefois à Raqqa. Elles ont toutes été détruites. En fin de journée, lorsque le soleil syrien se fait moins brûlant, c'est au bord de l'Euphrate, le fleuve qui traverse la ville, que la jeunesse de Raqqa se retrouve pour se baigner, fumer le narguilé, jouer de la musique. Des jeunes hommes surtout, l'un d'eux a 27 ans, cheveux parfaitement ramenés en arrière, il a préféré rester anonyme.
Je suis infirmier anesthésiste de formation, mais à cause de la guerre et de la situation dans ce pays, je n'ai pas pu valider mon diplôme. Du coup, c'est impossible pour moi de trouver du travail et je ne peux pas finir mon cursus universitaire car ma fac est à Homs, dans la zone contrôlée par le régime de Bachar. Donc si j'y vais, ils vont m'enrôler de force pour le service militaire et moi je ne veux pas me battre pour le régime, ni même pour les rebelles. Je suis pacifiste. Donc je suis né ici, j'ai grandi ici et maintenant je suis prisonnier de cette ville. Ça me rend malheureux, je ne peux rien faire à rester à la maison, fumer des cigarettes et glander avec mes copains. C'est ça ma vie.
Ce jeune Raqqaoui ne fait également pas confiance aux autorités locales, les forces démocratiques syriennes, alliances kurdes et arabes qui pratiquent aussi le recrutement forcé. C'est en fait toute une jeunesse qui vit dans la peur à Raqqa, une jeunesse qui pourtant répète sans cesse que Raqqa était la ville de l'amour. Mais aujourd'hui, aimer, construire une famille, après Daesh, après la guerre, ce n'est plus la priorité des jeunes femmes et des jeunes hommes. Souhour a 25 ans, elle est employée d'une ONG syrienne.
Il faut être une femme forte pour vivre ici. Moi, ma famille est très ouverte, donc ils me laissent faire mes choix, notamment celui de me marier. Mais moi, je préfère rester célibataire. Mais ma famille est une exception. Quand Daesh était à Raqqa entre 2014 et 2017, j'avais peur de mon propre reflet dans le miroir. Pourtant, à cette époque, j'étais une adolescente. C'est à cet âge qu'on apprend à être amoureux. Mais moi, j'ai jamais appris à aimer. Donc maintenant, je fais passer ma famille et mon travail en premier, et c'est tout.
Souhour aimerait faire des études de commerce, mais la seule université est en zone contrôlée par le régime de Damas, où elle ne peut pas se rendre par crainte d'être arrêtée. Une partie de sa famille vit en Turquie. Alors la jeune fille l'avoue, un jour elle devra peut-être quitter Raqqa, sa ville, pour aller se construire un avenir ailleurs.
Formidable reportage signé Céline Martelet. Merci beaucoup. Dans un instant, et pour aller jusqu'à 20h, je vous emmène dans l'histoire des grands reporters de guerre. Ne bougez pas et profitez de Gregory Porter. Everything you touch is gold.
Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. But oh girl, I think that you can stop mining. I don't have to dig to see. My treasure's standing right in front of me. Everyone that I know is asking me, what is going on in your life? Oh, and it feels like heaven, touching your hand, but it's just
Gregory Porter, Everything You Touch Is Gold.
France Inter, le 18-20 spécial Bayeux, pour le prix des correspondants de guerre.
Today's operation is the frustration of Vietnam in miniature. There is little doubt that American firepower can win a military victory here. But to a Vietnamese peasant, it will take more than presidential promises to convince him that we are on his side. Morley Safer, CBS News, near the village of Cam Ne.
Bonsoir Adrien Jaume.
Bonsoir.
On a déjà eu l'occasion de parler ensemble du livre que j'ai entre les mains, qui n'était pas un livre à l'époque, c'était il y a 2 ans, une exposition à Bayeux. Maintenant tout le monde peut en profiter, raconter la guerre, une histoire des correspondants de guerre. C'est publié chez Équateur, c'est la première histoire des correspondants de guerre. J'ai choisi pour introduire cette séquence un extrait d'un reportage de la guerre du Vietnam, parce que effectivement c'est un moment emblématique du reportage de guerre. Mais vous commencez évidemment bien plus tôt, vous commencez même extrêmement tôt, et moi j'ai découvert grâce à vous que précisément, et c'est pour ça que la correspondance avec le Vietnam est intéressante, les premiers correspondants de guerre étaient déjà MBD, comme on dit, à l'intérieur des armées, y compris pendant la guerre de Crimée au début du siècle dernier, à la fin même du précédent.
Oui, en fait, on s'aperçoit que l'histoire des correspondants de guerre, cette exposition comme qui avait eu lieu à Bayeux voici 2 ans, comme le livre qui en est le prolongement, il y a eu un choix qui a été fait dès le départ, qui était de faire remonter l'histoire des correspondants de guerre aux premiers professionnels qui apparaissent sur les champs de bataille. Comme vous le dites, au moment de la guerre de Crimée, au milieu du 19e siècle, apparaissent sur les champs de bataille des professionnels, des journalistes qui sont là pour raconter ce qui s'y passe. Ce sont pas des combattants et ce sont des gens qui racontent les événements.
Il y a un monsieur qui s'appelle Robert Howard Russell et vous écrivez ceci. Russell envoie des dépêches par le courrier qui part en bateau depuis la Crimée à travers la mer Noire puis le chemin de fer jusqu'à Londres. Elles mettent une 20aine de jours à arriver. Les récits du champ de bataille par ce témoin direct sont assez différents des peintures classiques et des récits héroïques. Russell raconte la confusion des combats, les blessures horribles, mal soignées, les épidémies qui font des ravages et les commandements pas toujours compétents. C'est là aussi que commence effectivement un vrai journalisme, en fait. On raconte pas simplement le côté très épique et héroïque de nos soldats, on raconte aussi la réalité de cette guerre.
C'est ce qui fait que William Howard Russell a des relations exécrables avec le commandement britannique à l'époque, qui cherche à lui interdire l'accès aux installations militaires, qui interdit aux officiers de lui parler. Mais il a un rédacteur en chef, il travaille pour le Times de Londres, il a un rédacteur en chef qui lui dit... Continuez à nous envoyer vos dépêches, on veut savoir ce qui se passe et nous on s'occupe des conséquences. Et les conséquences sont importantes puisque ça crée le récit de l'impréparation totale de l'armée britannique pendant cette expédition et notamment du service de santé totalement défaillant, entraîne la chute du gouvernement britannique à l'époque et un véritable scandale.
Là pour la guerre de Crimée, on est donc autour de 1855, dans ces eaux-là. J'ai repéré dans votre livre cette phrase du général Sherman, on est pendant la guerre de sécession, donc aux États-Unis et un peu avant. Si je pouvais faire exécuter tous les journalistes, je le ferais. Mais je suis sûr qu'on aurait alors des nouvelles de l'enfer dès le petit déjeuner.
Alors la guerre de sécession que vous évoquez, où le général Sherman est un des généraux des armées de l'Union, est un des premiers conflits à être aussi couvert aussi massivement. D'abord parce qu'on est en 1860, dans les années 1861-1865, les États-Unis ont une importante presse, donc il faut la nourrir, il faut des reportages, et donc tous ces gens-là, toutes les armées qui combattent pendant cette guerre, et cette guerre qui est quand même la plus grande guerre que connaissent les États-Unis. Ces armées-là sont suivies par des troupes de reporters, de journalistes, et qui agacent énormément le commandement. Et donc, ce général Sherman ne peut pas voir les journalistes, ne supporte pas les journalistes. Il les fait chasser de son quartier général. Il y a vraiment une tension permanente entre le commandement et les médias.
Et une censure aussi, j'imagine, parce que très concrètement, le vrai encadrement, le vrai empêchement, ça va commencer un peu après. Est-ce qu'ils racontent tout ce qu'ils veulent, ces journalistes, pendant la guerre de sécession?
Ils racontent à peu près tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas vraiment de censure. Et parfois, même, ils racontent n'importe quoi, il faut bien le dire. Il y a des gens qui sont à des centaines de kilomètres du champ de bataille qui racontent des événements auxquels ils n'ont pas assisté. Enfin, il y a toute la gradation allant du reportage le plus extraordinaire avec des gens qui prennent des risques fous. Notamment, il y a un fameux peintre, parce que à l'époque, on ne peut pas reproduire les photos dans les journaux. Et donc, pour ça, il y a des gravures qui illustrent les combats. Et pour faire une gravure, il faut un dessin. Donc, il y a des dessinateurs, on les appelle les special artists, des dessinateurs sur le champ de bataille qui prennent des risques complètement fous pour arriver à faire des croquis sur le vif sous la mitraille et les boulets de canon.
Et puis on est aussi à cette époque-là, et on le sera probablement jusqu'à la Première Guerre mondiale, dans cette idée que est-ce qu'on raconte la guerre dans toute son horreur, ou est-ce qu'on est là aussi pour porter une nouvelle vers l'arrière qui serait rassurante pour l'état de la guerre et aussi l'état des troupes?
Alors la Première Guerre mondiale que vous évoquez marque vraiment un tournant dans l'histoire du journalisme de guerre, parce que d'abord pour le coup il y a une censure absolue qui se met en place, une censure qui est d'ailleurs rendue possible par la nature de ce conflit, notamment sur le front occidental, c'est-à-dire en France. Il y a des tranchées de part et d'autre. On n'accède pas aux lignes de front sans avoir des autorisations, sans être contrôlé étroitement par l'autorité militaire. Donc il y a une censure très très stricte qui s'instaure, mais même les journalistes eux-mêmes reconnaissent qu'ils se censurent aussi, parce que tout à coup on n'est plus en train de couvrir un conflit lointain et assez exotique comme l'expédition de Crimée. C'est une guerre à mort. Même les journalistes disent, mais on peut pas. Et puis surtout, l'étendue de l'horreur à laquelle ils assistent les fait quasiment vaciller devant l'ampleur du phénomène et ils s'auto-censurent en disant qu'on peut pas raconter ça à l'arrière. Le moral des civils va lâcher.
Il y a un certain nombre de tournants dans l'histoire du journalisme de guerre. En voici un, peut-être, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Écoutez.
This is Ernest Hemingway. The fifth column was written in the fall and early winter of 1937 while we were expecting an offensive.
There were three major offensive projects for the Army of the Center that year.
Alors, la voix formidable d'Ernest Hemingway, alors l'extrait ne date pas de 1936 et de la guerre d'Espagne, mais d'après, il raconte dans quelles conditions, notamment, il a écrit la pièce La cinquième colonne. Mais on est donc dans les années 36, la guerre civile espagnole, un tournant véritable et un tournant aussi parce qu'on trouve sur ces terrains-là des Ernest Hemingway, des Kessel, des Dos Passos, des Saint-Exupéry, qui vont ramener ce qui se passe là-bas.
C'est effectivement la guerre d'Espagne, la guerre civile espagnole est un conflit qui marque un tournant. C'est la première guerre idéologique. Les intellectuels se déchirent, les opinions publiques en France, en Angleterre, aux États-Unis. Il y a les défenseurs de la les pro-républicains et ceux qui considèrent que les insurgés nationalistes ont luttent contre le communisme. Enfin, c'est vrai. Ça préfigure d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale par cet aspect comme dans d'autres. Et comme vous le décrivez, ça attire les intellectuels, les écrivains. Tout le monde va en Espagne. On se fait journaliste, on se fait correspondant de guerre pour aller témoigner et pour aller raconter quelque chose qui apparaît déjà comme une lutte idéologique qui marque leur époque.
Et ce qui marque aussi, c'est effectivement là pour le coup, la photo prend une ampleur que peut-être elle n'avait pas avant. Je pense c'est les débuts de Capa, c'est cette fameuse photo mythique à la une de Life avec ce soldat qui est en train de mourir. On est aussi dans ce moment-là, dans la naissance d'une race, pardon, je vais le dire comme ça, de photographes très mythiques.
Parce que aussi la guerre d'Espagne qui commence pendant l'été 1936 coïncide avec l'apparition d'une nouvelle technologie qui quelques années plus tôt, je crois qu'en 1935, qui sont des appareils avec qui utilisent un film de 35 mm avec des objectifs interchangeables, et donc tout à coup c'est plus une sorte de chambre noire encombrante avec un trépied qu'il faut trimballer sur la ligne de front, et donc il y a une nouvelle génération. Ce sont des photographes, effectivement Robert Capa et aussi Gerda Taro qui est sa compagne à l'époque. Qui sont d'abord très jeunes, ils ont une vingtaine d'années, et qui font pour la première fois l'usage de ces nouveaux appareils photos sur une ligne de front. Et donc on voit surgir des images qu'on n'avait jamais vues jusqu'auparavant, comme effectivement le milicien frappé d'une balle que Capa prend à la volée en sortant son appareil avec d'une main alors qu'il est à l'abri dans une tranchée. C'est une photo qui est rendue possible parce qu'il y a aussi la nouvelle technologie qui le permet.
Alors Adrien Jaune, vous venez de parler de Gerda Taro. Effectivement, il commence à y avoir des femmes dans ces métiers-là. Je voudrais que vous nous parliez de quelqu'un de très jeune qui s'appelle Claire Hollingworth, dont j'ai totalement découvert l'existence, et qui a fait ce qu'on appelle le scoop du siècle, réellement.
Il y a toujours eu des femmes, très rapide, très quasiment dès le début. C'est une profession un peu curieuse, c'est une profession qui n'existe pas vraiment, et puis où les gens dans laquelle les gens se lancent parfois sans trop savoir ce qu'ils vont y trouver. Et il y a effectivement l'histoire des correspondants de guerre est jalonnée par des figures féminines majeures. Donc Claire Hollingworth, c'est toute jeune, c'est une jeune Britannique. Elle est en Pologne et elle est correspondante du Daily Telegraph. Et on est en 1939, l'été 1939. Et elle applique la première règle du journalisme qui est d'aller voir. Et donc en fait, on parle de mobilisation allemande, personne ne sait trop ce qui se passe. Elle prend sa voiture, elle a un passeport avec un visa allemand, elle traverse la frontière. Et là, elle applique la deuxième règle du reportage qui est avoir de la chance. Et elle a une chance incroyable parce que, en fait, il y a une route dont le bas-côté est masqué par l'armée allemande a installé des tentures et des bâches pour empêcher qu'on voit ce qui se passe dans un vallon en contrebas. Et là, le vent soulève la bâche et elle aperçoit les régiments de Panzer qui sont alignés, prêts à franchir la frontière polonaise.
Voilà, le scoop du siècle, comme on dit. Puisqu'on est dans la Deuxième Guerre mondiale, je voudrais vous faire écouter ceci.
Thank you and good afternoon, ladies and gentlemen. This is the story of Ernie Pyle, the man who became a father of 10 million men in service, and thus became the greatest war correspondent of World War II.
Très très vieil extrait d'un très vieux documentaire. Ernie Pyle, dont on parle, est déjà mort lorsque ce documentaire paraît. C'est l'inventeur de G.I. Joe. C'est le premier à avoir raconté les G.I. à l'intérieur de la guerre. C'est celui qui a raconté le soldat basique en mettant son nom, en mettant l'état, la ville à laquelle il appartient, en donnant cette humanité aux soldats. C'est le premier à avoir joué à ça.
Oui, parce qu'en fait, il a une approche complètement différente de celle des autres correspondants de guerre de l'époque qui s'attachent au grand mouvement des armées, aux batailles, aux généraux, à la stratégie, à ce qui se passe, aux conséquences sur le front. Annie Pyle, lui, s'intéresse aux combattants. Il s'intéresse aux combattants américains. Il a en plus comme particularité, il travaille pour un syndicate, c'est-à-dire en fait des associations de journaux américains. À l'époque, les États-Unis sont chaque petite ville américaine a son journal local et qui reçoivent les reportages d'Annie Pyle, qui sont donc lus dans tous les États-Unis, y compris dans les toutes petites villes. Et Annie Pyle a comme habitude, il parle aux soldats. Il s'intéresse aux soldats et particulièrement à l'infanterie. Il dit j'aime bien l'infanterie. Il dit ce sont les prolétaires de la guerre. Il inscrit le nom, le prénom et la ville d'origine des soldats auxquels il a parlé. Et donc effectivement, il est sur tous les fronts, il couvre tout, il suit les armées américaines qui sont en campagne pendant le débarquement de Sicile, en Italie, pendant le débarquement de Normandie, ensuite et chacun de ces reportages met en scène une unité américaine avec des soldats où ils se reconnaissent, où leurs familles peuvent lire, d'avoir des nouvelles, et il donne une humanité, une existence individuelle à des soldats qui sont dans un conflit aussi vaste, généralement considéré comme des pions interchangeables, des numéros.
Avec nous, Adrien Jaulme et son livre « Raconter la guerre, une histoire des correspondants de guerre ». Après la Deuxième Guerre mondiale, Adrien, arrive précisément ce moment où le reportage s'éloigne des soldats et se rapproche des civils.
Ce que vous décrivez est exact, c'est-à-dire en fait il y a une évolution. Les journalistes et les correspondants de guerre incarnent à peu près l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'on se met à regarder la guerre de façon différente. Effectivement, la guerre du Vietnam est sans doute un tournant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre juste, c'est une guerre héroïque. On se bat contre le fascisme, on se bat contre le nazisme, on se bat contre des ennemis qui c'est une guerre implacable, mais où il n'y a aucune place pour les ambiguïtés morales. On se pose pas beaucoup de questions. Et ensuite, les guerres de décolonisation et les guerres comme la guerre du Vietnam, on voit naître. Alors, au début, c'est une minorité de journalistes chez qui ça apparaît, puisque la plupart sont encore dans la même approche que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les Américains sont là pour défendre le Vietnam de l'infiltration communiste. Mais il y a une nouvelle génération plus jeune, ou du moins qui a une approche un peu différente et qui s'aperçoit tout à coup que cette guerre est totalement absurde, que l'état-major raconte absolument n'importe quoi, et qu'en fait, en allant sur le terrain, on voit des opérations qui n'ont pas de but, et surtout le coût humain extrême qui est exercé sur les civils. Et effectivement, il y a un après la guerre du Vietnam où on commence à dénoncer la guerre comme une sorte d'absurdité, d'horreur absurde qu'il convient d'arrêter, ou au moins dont il faut dénoncer les excès.
Et notamment ceci.
Les soldats fédéraux sont actuellement sur le fleuve Imo, à une vingtaine de kilomètres de ce pont qui coupe la route entre Aba et Umaya. Voici en gros la situation militaire. Mais il est un autre aspect que le monde entier connaît aujourd'hui, c'est l'agonie du peuple biafrais, l'un des plus grands génocides de tous les temps. L'aide parvenue jusqu'à maintenant au Biafra ne représente qu'une goutte dans cette mer de détresse humaine, comme l'explique au colonel Steiner, ce chirurgien de la Croix-Rouge internationale.
Donc on est au Biafra, effectivement, et dans la même idée, ce qui intéresse les journalistes, c'est l'horreur qu'il y a autour. Et peut-être que là, le tournant du Biafra, c'est de voir les corps, de voir les enfants décharnés, la famine, et ce que sont les conséquences des guerres.
Le Biafra est un tournant, ça se passe à peu près au même moment que les guerres du Vietnam, on est en 1967-68. La sécession du Biafra, qui est une province du Nigeria, il y a une famine terrible qui est suscitée par les autorités du Nigeria qui affament la province sécessionniste. Et c'est à peu près l'époque où on voit apparaître aussi les organisations humanitaires comme Médecins Sans Frontières. Et on voit, particulièrement en Occident, on voit aussi pour la première fois les images absolument insoutenables d'enfants squelettiques, de civils en train de mourir de faim et ce changement du regard, c'est-à-dire que finalement on ne s'intéresse presque plus aux opérations militaires et aux manœuvres des troupes et au combat des soldats, mais plutôt aux conséquences terribles que vivent les populations civiles.
Il y a un dernier extrait que je voudrais vous faire écouter, Adrien Jaulme, et qui parle à la fois d'une évolution de la couverture des guerres, mais peut-être aussi d'un terrible retour en arrière.
Ce voyage commence au nord du Liban. Je suis à quelques kilomètres de la Syrie, ce pays qui, depuis 8 mois, vit loin des regards. C'est ici, en terre libanaise, que je recueille les premiers témoignages. Première halte, cette école. Aujourd'hui, elle abrite des réfugiés syriens, dont beaucoup d'enfants. Ils sont plus de 70 à vivre ici. Ils en arrivent par petits groupes, toutes les semaines.
L'extrait d'un reportage de Manon Loiseau qu'on connaît bien à Bayeux, bien sûr. Ce que dit la Syrie, je parlais de retour en arrière tout à l'heure, c'est que à nouveau, on est dans une guerre à huis clos.
La guerre est un phénomène qui a des points communs, mais les guerres sont toutes différentes. Il y a des guerres qui sont très difficiles d'accès, d'autres qui sont beaucoup plus accessibles. Les conditions qui sont des conditions géographiques, des conditions physiques sont réelles, mais ça ajoute bien sûr l'accès qui est laissé aux journalistes ou qui leur est interdit. Et la Syrie, évidemment, à la fois parce que le régime de Bachar el-Assad interdit quasiment à tous les journalistes de pénétrer sur les territoires qu'ils contrôlent, et de l'autre côté, très, très rapidement, la rébellion bascule dans une dérive extrémiste et islamiste où on se souvient de tous les journalistes qui avaient été kidnappés et assassinés, qui font en fait que la couverture médiatique devient très très faible.
Et enfin, et c'est aussi la conclusion de votre livre, Adrien Jaulme, l'autre danger, c'est que désormais, la guerre est mise en scène pour nous. Pour les journalistes.
La guerre est en fait, la couverture médiatique de la guerre est devenue tellement partie intégrante d'un conflit que plus personne ne livre une guerre sans avoir une narration, sans avoir un accompagnement médiatique. Et donc, bien sûr, la propagande qui est rendue encore plus puissante par les moyens de diffusion dont dispose maintenant quasiment tout le monde, s'est emparée de l'outil médiatique pour quasiment transformer la réalité. Et donc, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui.
Merci beaucoup, Adrien Jaulme. Merci vraiment. Votre livre est passionnant. Racontez la guerre, une histoire des correspondants de guerre aux éditions Équateur. C'est comme ça que l'on quitte cette année la 28e édition du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. En remerciant tout le monde très chaleureusement, en remerciant aussi France Bleu Normandie-Caen qui a accueilli certains de nos invités. Merci ce soir à Tristan Gratalon pour la réalisation. Merci à Nathalie Poitvin pour la programmation, à Marie-Claude Pinson à la rédaction en chef. Et ce soir à la technique à Clément Berman et Michel Bézikian.